Hachem, notre cours sur le chapitre 12 de Igaret Hatshuva. On est prêts, messieurs ?
Chapitre combien ?
12. On va peut-être finir aujourd'hui Igaret Hatshuva, je ne sais pas. Ou aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais je pense qu'on va finir aujourd'hui. Et c'est une émotion particulière si on réussit à le finir aujourd'hui, puisque ce soir, c'est les Shloshim de mon grand-père, à la Vachalom. Donc mon père est parti à Lyon, là-bas. Moi, j'ai pas pu partir. Notamment, je voulais pas annuler le cours de Tania. Donc, je lui ai dit que je serai pas là-bas, mais qu'on dédiera le cours, Bezrat Hashem, Leilou Nishmat, mon grand-père. Amen. Donc, on va dédier le cours, Leilou Nishmat, Reb Yosef Ben David. Voilà, ce soir, c'est les Shloshim.
Assouline,
mon grand-père, à la Vachalom.
Descendant du Mashiach.
Ah, pas mal, Ben David. Alors, le 12e chapitre, c'est le dernier chapitre de Igaret Hatshuva. Il est pas très long, donc on peut peut-être le finir aujourd'hui. Sinon, on finira la semaine prochaine. Mais si on le finit aujourd'hui, c'est mieux. Comme ça, la semaine prochaine, on fera un petit cours hors série sur Shavuot. Il faut se préparer un petit peu. Sinon, on finira la semaine prochaine, c'est aussi bien. Alors, dans le dernier cours, à la fin du chapitre 11, l'Admor HaZaken a cité rapidement la notion de Smechim Be'issurim. Se réjouir des épreuves qui arrivent à l'homme. Pourquoi il avait parlé de ça? Parce qu'il avait dit que justement, le fait de se rappeler de nos fautes, le fait de ne pas oublier d'où on vient, ça nous permet d'accepter les souffrances qui arrivent et de comprendre que ça nous nettoie quelque part. C'est l'expliqué. Smechim Be'issurim. Alors, on a dit, ça nous aide aussi à ne pas s'enorgueillir, à ne pas écraser les autres, etc. On se rappelle d'où on vient. Donc, quelque part, c'est bien de se rappeler d'où on vient. D'un autre côté, c'est pas pour être déprimé. Dieu ne veut pas qu'on soit déprimé. Mais, quelque part, savoir d'où on vient, ça nous remet tout dans le contexte et savoir que ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. On s'arrêtait longuement dessus. Là, si vous voulez, il va ouvrir un annexe, une parenthèse intéressante. Smechim Be'issurim. Comment être joyeux dans les souffrances? Alors, c'est très compliqué. Parce que, dans d'autres religions, les Havdil, on te dit, lorsqu'on te met une claque, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois attendre l'autre jour. Les Havdil. Évidemment, c'est pas l'approche de la Torah. L'approche de la Torah te dit, lorsqu'on te met une claque, qu'est-ce que tu fais?
Tu rends
une claque.
Tu rends l'autre.
Maintenant, le problème, c'est, qu'est-ce qui se passe lorsque celui qui t'envoie la claque, c'est Dieu?
Ah. Laisse-t-il.
Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, merci. Bon, tant mieux, je la prends avec amour, merci beaucoup, envoie une autre?
Oui, bien sûr.
Ou est-ce que, d'un autre côté, je vais dire à Dieu,
avertissement.
Non, je ne veux pas d'épreuves.
C'est systématique.
Alors, pourquoi on a un problème? Je termine la question. Vous allez me dire, évidemment, mais c'est quoi cette question? Il n'y a pas de question. Évidemment, personne n'aime les épreuves, on n'est pas les sadomaso. Personne n'aime les épreuves. Mais le problème, c'est que si j'ai la Emouna, que cette épreuve m'est envoyée par Dieu, donc Dieu sait ce qu'il fait. Donc si moi je suis en train de dire à Dieu arrête l'épreuve, c'est comme si quelque part je suis en train de dire à Dieu tu ne sais pas ce que tu fais. Ah oui, comment ça marche? On a dit la semaine dernière qu'un juif doit être joyeux de ses épreuves. Comment c'est possible? Vraie question ça, grande question. Michael, tu veux dire quelque chose?
C'est systématiquement de Dieu.
Il n'y a rien qui arrive dans ce monde qui n'est pas dirigé par Dieu.
Bien ou mal,
même la Shoah. Voilà, c'est clair. Maintenant, c'est pas parce que j'ai la Emouna que ça vient de Dieu que je le comprends. Je le comprends pas. Oh, très bien, je comprends pas. Ça vient de Dieu. Alors, quand il y a une épreuve qui m'arrive, je dois avoir la Emouna que non seulement ça vient de Dieu, mais encore pire.
L'accepter.
Encore pire, ça va être le cours d'aujourd'hui. Je vous préviens, c'est un cours qui est pas facile. Enfin, il est simple à comprendre, mais c'est un cours qui va nous bouleverser un petit peu. Quand on parle de Teshuvah, il va t'expliquer que quelque part, une épreuve, c'est pour ton bien. Maintenant, je précise d'emblée.
La Shoah, c'est pour mon bien.
Alors,
même si je ne comprends pas.
Je ne dis pas que j'arrive à comprendre que c'est pour mon bien.
Mais c'est ça le principe.
Alors, je dois préciser avant de commencer ce cours qu'il est évident qu'on demande à Dieu de ne pas nous amener à aucune épreuve.
C'est dur.
C'est clair.
Quelqu'un qui a vécu.
C'est très dur, évidemment, parce qu'il y a des épreuves dans la vie, on va dire, des épreuves relativement faciles. Des fois, il y a des gens qui ont des épreuves dans l'éducation des enfants, ou dans le shalom bayit. Bon, c'est des moments qui sont pas simples, mais on sait que c'est des moments qui sont un tremplin pour se dépasser, pour découvrir de nouvelles choses, etc. Donc là, c'est relativement facile de trouver le bien dans le mal, d'accepter que le mal était un bien. C'est que le mal était pour un bien, et que le mal était un bien lui-même. Ça, c'est relativement facile. Mais quand tu as des cas beaucoup plus complexes, quand tu apprends du présage des gens qui ont des problèmes beaucoup plus graves, de maladies,
quand c'est les autres,
etc.
Ouais.
Là, c'est compliqué. Là, que c'est... Comment tu expliques le mal? Alors, on va essayer d'expliquer tout ça. Je ne dis pas qu'on va, on va connaître la formule qui va nous permettre de comprendre qui est Dieu. Parce que si on comprenait qui est Dieu, on serait Dieu, exactement.
Ouais.
Mais au moins, on va essayer de comprendre cette formule, comment ça se fait que, qu'un juif peut se réjouir, je dis bien le mot, des souffrances du cœur. Et si on pouvait titrer le cours d'aujourd'hui, comment on peut être joyeux en toutes circonstances? Voilà, joyeux en toutes circonstances. Alors on y va.
Je dois être aussi joyeux du problème que mon voisin il a eu.
Non,
parce qu'il l'a eu par Dieu.
Oubliez le voisin. Parce que Lyon par Dieu. Alors, non, oubliez.
Quelqu'un que je connais, il a eu quelque chose de pas bien, et je lui suis envoyé par Dieu. Je dois aussi me réjouir.
J'ai compris votre question. Monsieur Benita, oubliez l'autre. Dans ce cours, vous allez oublier l'autre. On ne parle pas de l'autre, on parle de moi. On est d'accord? L'autre, c'est son problème. Il va gérer son problème avec Dieu. Je parle de moi maintenant. Quand il y a un truc qui m'est arrivé, que je pense qu'il ne devrait pas m'arriver. J'estime que ça ne devrait pas m'arriver. Et qu'on me dit, garde le sourire. Pourquoi tu veux que je garde le sourire? Un enfant qui prend une claque, il garde le sourire ou il baisse la tête? Vous comprenez? Il s'est fait gronder par son père. Il baisse la tête ou il fait un grand sourire? C'est compliqué. Comment ça marche? Donc là, si vous voulez, c'est compliqué parce que de plusieurs angles, c'est compliqué. D'abord, je dois avoir la émouna que le coup que je reçois, il vient de mon père. Hachem. Bon. Et en plus, on me dit, tu dois rester joyeux. Donc je me réjouis d'être opprimé. Comment ça marche? On va essayer d'expliquer tout ça. Putain, Massim, Rabbi Souragou, on y va. La raison de la joie concernant les souffrances du corps, les fichei, tovak, dolavat, soubalene, fachachotat. Il faut savoir que lorsque Dieu envoie une souffrance, et on espère que la souffrance soit light, lorsque Dieu nous envoie un petit coup de karcher en bas, pourquoi on se réjouit de ça? Parce que cette souffrance est tovak dola. C'est un grand service, va tsuma et puissant, la nefesh ochata achotad pour une âme qui a fauté. Pourquoi? On dit que pour une âme qui a fauté, la souffrance qui arrivera, c'est un grand service. Ah ouais, j'attendais la question.
C'est une réparation.
Les marka baolam hazé. Pour la nettoyer dans ce monde, et ou les hatsila mamiru begeinom, et la sauver ainsi du nettoyage au Géinom. Parce que au Géinom, c'est du lourd.
Ça, le Géinom, c'est quoi? C'est 11 mois?
Ouais.
C'est quoi? C'est tout. Une fois qu'on a passé ça, c'est fini.
Et la mort, ça dure combien de temps? Une seconde?
Quoi? Lorsqu'on parle du Géinom, on est bien d'accord? Tu restes combien de temps dans le Géinom? Bon, tu souffres ce que tu dois souffrir, on est d'accord?
Dis pas tu, ni toi ni moi,
il. D'accord. Mais combien de temps, c'est ça?
C'est 11 mois, mais c'est 11 mois. Voilà. C'est long, 11 mois. C'est très, très long, 11 mois.
Hein? Pourquoi? Tout le monde passe au Géinom.
Non, on ira tous au paradis.
Mais ça va, ça c'est la fin de ma chanson.
C'est Karcher.
Alors, tu dis comme ça. Regardez la démarche qu'on va faire dans le cours d'aujourd'hui.
Mais on va au lavage ou on ne va pas au lavage?
Quoi? On ira au lavage. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand tu as une pierre précieuse qui était presque propre, mais bon, elle est un petit peu sale. On va la nettoyer, on va la polir. Mais quand la pierre précieuse, on voit même plus que la pierre précieuse, on voit que de la terre. Là, c'est compliqué, là.
Il
y a du gros boulot, là. C'est... On va karchériser les banlieues.
Alors que dans le même temps, on dit qu'on l'Israël, c'est un khel qui va à la mappa.
D'accord, il n'y a pas de problème, ça change.
On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de problème futur. Sauf que pour y arriver, il faut.
Alors, si j'ai le khel qui va à la mappa, donc j'ai pas besoin de m'inquiéter de ce qui se passe.
Monsieur Benita. Voilà, comme ça, vous êtes enregistré. Hein. Monsieur Benita.
On pense à vous.
Imaginez que vous avez les clés pour ouvrir un palais. Mais devant le palais, il y a plein de boue. Et pas stand de la boue. La boue, elle monte tellement qu'elle couvre la clé, la serrure pour ouvrir la porte du palais. Ah, monsieur Benita, il va venir, il va dire, mais moi j'ai la clé, c'est à moi, je peux rentrer. Oui, mais t'as la clé, mais encore faut-il pouvoir rentrer. Vous comprenez? Ou bien il a la clé, mais il n'a pas de bras pour utiliser.
Alors, comment je dois interpréter que l'Israël...
Alors, on va avancer. Mais il faut rentrer. Il faut pouvoir rentrer.
Donc, s'il me dit ça, c'est que j'ai la clé.
J'ai la clé, mais il faut pouvoir l'utiliser. On va avancer. Oh, si vous voulez, on va essayer de pas se disperser. On va rester dans le thème du cours d'aujourd'hui. Le thème du cours d'aujourd'hui, c'est comment je peux me réjouir des souffrances du corps. On espère mini, mais comment je me réjouis? Point numéro 1. Je me réjouis parce que j'ai la émouna, que ça vient de Dieu, et que... Ce que Dieu m'envoie ici-bas sur terre, ça m'épargne d'une punition beaucoup plus grande en haut. On va expliquer pourquoi. ולהצילה מהמירוג בגיהינום, ובפרט בדורותינו אלה, particulièrement dans nos générations, je suis en bas de la page 274, rappelez-vous le chapitre 3. On avait expliqué qu'à l'époque du Beth Amikdash, on amenait un korban pour chaque faute. Une fois que le Beth Amikdash était détruit, on a remplacé les korbanot par des jeunes. Et des jeunes, un nombre innombrable de jeunes. Par exemple, pour la colère, combien de jeunes pour la colère, vous rappelez?
40.
Et Gimatria de Kaas, c'est quoi Gimatria de Kaas? 60, plus 20, plus 70. Ça fait combien?
130.
Hein? Comment? Juste pour un coup de colère, tu vois. Etc. Donc, on peut pas payer tout ça. Donc, dis-toi que tous ces jeunes, on peut pas les payer. Donc, si tu peux pas les payer en bas, il faudra bien les payer un jour. Qui va les payer? C'est moi. Où je vais les payer? En haut. Donc, on te dit la chose suivante. Lorsque Dieu t'envoie une petite galère, la galère t'épargne de beaucoup de souffrance en haut. Parce que la galère, elle t'est nettoyée. Regardez ce qu'il continue, il y a l'explication.
On parle de souffrance d'un homme et il parle de souffrance de l'âme. C'est pas la même chose. L'homme, il souffre.
Non, pour l'instant, je parle de souffrance du corps, là. Souffrance.
D'un corps physique, tu parles?
Oui, bien sûr.
D'un corps physique.
Bien sûr. Une souffrance, c'est un grand mot, souffrance. T'as une personne qui peut tomber malade, tu préserves. On n'arrive pas jamais à des choses comme ça. T'as une personne qui peut avoir une galère dans le business. C'est une souffrance, ça. Il arrive le soir, il est crevé, sa femme lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, j'ai passé une journée horrible aujourd'hui. C'est une souffrance. T'as des journées que tu dis, mais je suis parti aujourd'hui au boulot, je comptais faire ça, non seulement que j'ai pas fait ça, je suis en dans une galère qu'il me faut 2 semaines pour m'en sortir. Il me faut 10 mois pour m'en sortir.
Et c'est une galère pour effacer.
Donc, bien sûr. Parce que pourquoi elle est arrivée, la galère? Pourquoi elle est arrivée, cette galère?
Moi, je pensais un corps physique.
Il n'y a rien qui arrive par hasard. Toi, tu crois, j'ai fait une mauvaise manipulation, ou bien tu crois, il y a un concurrent qui a fait ça, donc je suis dans une galère. Ou tu crois, elle a parlé des impôts, ou tu crois ci, ou tu crois ça. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Derrière l'inspecteur des impôts qui est venu, derrière le concurrent qui t'a envoyé ça, derrière le problème qui est arrivé, derrière la machine qui est tombée en panne, il y a Dieu. Dieu. Et pourquoi Dieu, il a fait ça?
Il y a aussi moi.
Non, mais je comprends, mais pourquoi Dieu, il a fait ça? Pour te faire transpirer un petit peu. Pourquoi Dieu te fait transpirer? Parce que chaque transpiration que tu as t'épargne des problèmes.
Ouais, par exemple, la femme qui a accouché, elle a des douleurs, elle accouche avec des douleurs, avec qu'est-ce qu'elle a fait?
Non, ça c'est de
là aussi.
Non, mais là c'est autre chose. Non, ça n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir. Là.
Pour accoucher.
Dieu a annoncé depuis Chava, il a dit que comme la femme a fauté, alors dorénavant, toute l'espèce féminine, enfin, dans l'espèce humaine. Toutes les femmes devront souffrir pour l'accouchement. C'est bon, c'est autre chose. Ok?
Ouais.
Excusez-moi, il y a arbitre après parce que quelqu'un qui le fait.
On fera arbitre à 21h45. Ok, on continue. Donc, alors il dit, comment chez Katav à Ramban? On va essayer d'expliquer maintenant pourquoi c'est intéressant pour nous de payer en bas. C'est beaucoup plus intéressant de payer en bas que de payer en haut. Pourquoi? Mais attention, je veux pas que vous reteniez du cours d'aujourd'hui qu'on dise à Dieu, envoie-moi des souffrances. C'est pas du tout le but. Chas v'shalom, on n'est pas équipé pour, on veut pas de souffrances, garde-les pour toi. On veut pas de souffrances. Mais la vie est faite de galères. Il y a des galères dans la vie. Chacun à son niveau, il a des galères, d'accord? C'est ce qui fait qu'il y a des maux de tête, il y a des problèmes. Pourquoi ces problèmes arrivent? Ces problèmes arrivent pour te nettoyer. Et sache que un petit nettoyage en bas, qu'on va expliquer, t'épargne d'un gros nettoyage en haut. Et on a le ratio. Comme Nachmanide a écrit dans son introduction au commentaire de Job. Vous connaissez l'histoire de Job? Hein, Job, il a beaucoup souffert dans sa vie. Alors il y en a qui disent que c'est une histoire hypothétique. D'accord? C'est une histoire, je veux dire, théorique. Il y en a qui disent que c'est une vraie histoire. Peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. Et Nachmanide, et donc tout le monde s'arrête sur ce commentaire pour essayer de comprendre. Parce que Job, il pose des questions très dures à Dieu. Ouais. Des questions sans réponse.
Et il souffre beaucoup, lui.
Et il souffre beaucoup. Vous avez déjà lu Job?
Non, il y a une réponse.
Il pose des questions très dures. Alors, il y a des questions où il a la réponse, Dieu lui répond, et des questions où Dieu ne répond pas. Où il répond une réponse qui n'est pas une réponse. Oui. Alors, Nachmani, dans son introduction, sur son commentaire sur Job, il dit comme ça. Shafilu isurim shel Eyob ayn shana. Que même les souffrances endurées par Job pendant 70 ans, Ein laem erer klal, n'ont aucune commune mesure les yisourei nefesh aux souffrances de la neshama, sha'achat be'ginom. Une heure dans le Guéhinnom. Une heure dans le Guéhinnom ne vaut pas, enfin, vaut, une heure dans le Guéhinnom, c'est plus dur que 70 ans de Iov. Maintenant, si vous connaissez Iov, Iov, il a eu toutes les galères possibles au monde. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu son travail, il a perdu son pays, il était en prison, il est mort, toutes les galères, il était malade, pendant longtemps.
Il a continué.
Malade pendant longtemps. C'est-à-dire, déjà, il est malade, en plus, pendant longtemps. D'accord? C'est-à-dire que toutes les galères possibles et imaginables, il les a eues.
Il n'a jamais rien demandé à personne.
Il les a eues.
Jamais.
Alors on te dit, tu dis, ah, Job, c'est un cas imaginaire d'une personne qui a eu toutes les options possibles. Qu'est-ce que dit Nachmani? Tu dis, tu vois toutes les souffrances de Job. 70 ans de souffrance comme ça, ça n'a aucune commune mesure avec une heure dans le Guéhinnom. Une heure dans le Guéhinnom, c'est pire que 70 ans de Job. Pourquoi? Ki echad meshishim. Car, c'est écrit, que la souffrance du feu, c'est 1/60 du Guéhinnom. C'est-à-dire que la même façon qu'on sait que Batel Beshishim, vous savez, dans la principe halakhique, on dit que lorsque tu as 1/60, c'est annulé. Ben, dis-toi que la souffrance du feu, on sait que la mort la plus dure sur Terre, c'est quoi? C'est le feu. C'est horrible, le feu. La mort, c'est horrible. Un grand feu. C'est horrible, c'est horrible. Eh ben, dit la Gemara. La Gemara, elle dit, dans Gemara Brachot, elle dit que le feu, c'est 1/60 de la souffrance du Guéhinnom. Ça veut dire, c'est rien par rapport à la souffrance du Guéhinnom. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'on comprend, c'est que la souffrance du Guéhinnom est très très dure. Et lorsque Dieu, au lieu de faire souffrir une personne dans le Guéhinnom, il envoie des petits appels de phare en bas. On doit s'estimer heureux que ça nous arrive. Bon, ça fait un peu sadomaso quand même.
C'est difficilement acceptable.
Bien sûr, très difficilement acceptable. Parce que c'est pas chez nous de tendre l'autre joue. On tend pas l'autre joue chez nous. Je veux pas aller me mettre devant le bourreau et dire vas-y frappe-moi. C'est un sadomaso qui fait ça.
Oui, c'est un peu ce qu'on fait.
Tous les matins, on prie à Kadosh Baruch Hu dans le brachot. Je sais pas si vous faites le brachot, c'est important de le faire. Tous les matins dans le brachot, on dit Al Tivi, nous le dénisayon, velo le devisayon. On demande à Dieu de ne pas nous amener ni à l'épreuve, ni à la honte. On ne veut pas les épreuves. On n'aime pas les épreuves. Et pourtant, lorsque l'épreuve arrive, parce que la vie est faite d'épreuves, on espère des petites. Parce qu'en français, il y a un synonyme d'épreuve, mais qui n'est pas vraiment synonyme, c'est challenge. C'est pas la même chose. Mais c'est un challenge, c'est une épreuve. Quand vous allez, par exemple, les sportifs.
Oui, mais c'est dans le bon sens.
Ah, mais attendez. Quand vous allez les sportifs, comment on appelle les épreuves? Les épreuves sportives. Et comment ceux qui font on souhaite une grande réussite, si Dieu veut, aux jeunes qui font le bac et toutes les études, etc. Comment on appelle aussi leur, une épreuve? L'épreuve du bac. Pourquoi t'appelles ça une épreuve?
Parce que c'est une épreuve.
C'est une épreuve. C'est une souffrance. Peut-être. Mais c'est fait pour te faire souffrir.
Ah,
c'est pour te faire grandir. Vous voyez, donc on voit bien que même en français, le mot épreuve, éprouver quelqu'un, c'est pour son bien. D'ailleurs, en hébreu, le mot nisayon, qui veut dire épreuve, vient du mot nes, qui veut dire miracle, et qui veut dire aussi drapeau, étendard, drapeau. Parce que l'épreuve t'élève. Nes, c'est un drapeau. L'épreuve, nisayon, nes. Elle te permet de t'élever pour arriver jusqu'au nes, jusqu'au miracle. Donc c'est clair qu'il y a quelque chose. Bon, mais ça répond toujours pas à la question. J'ai envie de dire, écoute, je veux pas chercher des problèmes, moi. S'il veut me faire le karcher quand on sera en haut, qu'il règle mes problèmes quand on sera en haut, qu'il me laisse tranquille en bas et en haut, on règle les comptes. C'est vrai, on a un peu tenté de le dire comme ça. C'est-à-dire, je dis, bon, écoute, maintenant je suis en vacances, je suis bien ici, on verra à la fin du mois d'août, on fera les comptes, je rentre à Paris, le banquier il m'appellera, envoie-moi Lucie, envoie-moi qui tu veux. Maintenant je suis tranquille, je suis en vacances, voilà, que tu me prends la tête. Hein. C'est un peu ça. Donc, on se dit, tu es là à me dire, tu comprends, tu es dans ce monde-ci, mais après, il y aura Guéhinnom. Je dis, ouh, Azovoti, mais Guéhinnom, qu'est-ce que tu parles Guéhinnom maintenant? C'est pas tranquille.
En tout cas, c'est déprimant, ça.
D'accord, hein? Bien sûr. Alors, on te dit non. On te dit pas du tout. Sache qu'une petite souffrance en bas t'acquitte d'une grande souffrance en haut. Pourquoi? Alors là, écoutez l'idée qu'il va expliquer. Comment en vérité, une souffrance en bas, c'est un recette d'Hachem. Et là, les filles, je suis à la page 275, au milieu de la page. Et là, les filles, chez Olam Hazé, recette Ibané. Ce monde, notre monde, est construit avec bonté. Ou beisourin kalim baolam hazé, et avec des souffrances, des petites souffrances, ça veut dire des petites souffrances en quantité et en qualité, des petites souffrances, des petites galères en ce monde-ci, nitsol midinim kashim shel olam haba, on est sauvé de dinim très dur dans le Olam Abba, dans le monde futur. Et il a donné un exemple très simple, magnifique comme exemple. Un exemple que depuis que je l'ai appris, jusqu'à aujourd'hui, je m'en souviens plus, je me souviens. K'mashal, ilur ve'atakat atzel ba'aret stefach. Pour expliquer comment, dans le ratio, ce que tu passes ici-bas sur Terre correspond à ce qui serait passé au Gan Eden ou au Gehinnom dans une échelle beaucoup plus grande. Je donne un exemple très simple. Imaginez le soleil, l'ombre du soleil. Ok ? Bon, aujourd'hui, on a eu un beau soleil, Baruch HaShem. Donc le soleil, tu peux suivre son ombre. Alors, quand il est au zénith, il est au zénith, il éclaire tout le monde. Après, à un moment, il bouge. Et à un moment, tu vois, par exemple, le soleil s'arrête là. La lumière du soleil s'arrête là, et là, c'est l'ombre. Bon. Tu reviens un quart d'heure plus tard, et tu vois que si tu as mis une trace avec le marqueur, ben, tu verras que ça a bougé. Un quart d'heure plus tard, ça a bougé, je sais pas, peut-être de 10 cm. C'est-à-dire que le soleil va plus loin. Donc tu dis, ah ben le soleil a bougé de 10 cm. Mais on sait que c'est faux. C'est que si ici-bas, la lumière, l'ombre a bougé de 10 cm, c'est-à-dire que le soleil, il a bougé de combien de kilomètres? Le soleil ou la Terre, peu importe. Il a bougé de combien de kilomètres? C'est des milliers. Pourtant, ici, sur Terre, on a vu combien? On a vu 10 cm. Tu dis, moi, j'ai vu 10 cm. Mais dans le ratio 10 cm en bas, dans l'échelle, ça correspond à des milliers de kilomètres en haut. Alors ça, c'est une image pour nous expliquer que c'est la même façon spirituellement. Il y a ce qui se passe sur Terre, et il y a ce qui se passe dans le Gan Eden. Le Gan Eden, il n'est pas dans le soleil, mais c'est une image. Il faut te dire qu'une petite chose que tu passes ici, ça correspond en haut à des années-lumière.
Ça va beaucoup trop vite pour nous.
On a même le problème avec le temps. C'est une grande question, je ne veux pas rentrer dedans aujourd'hui. Parce que la question c'est, est-ce que c'est le même temps qui fonctionne, par exemple, dans le soleil?
Non, l'espace-temps.
Oui, non, c'est une vraie question, c'est pas simple, hein, comme question. Parce que, bon, je ne rentre pas dedans. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cet exemple? On voit dans cet exemple que ce qui, sur Terre, a l'air petit, dans l'espace, c'est grand. Et pourtant, c'est la même chose. C'est le même soleil qui a bougé. Mais en haut, il bouge de milliers de kilomètres, et en bas, il bouge un petit peu. De la même façon spirituellement. Comment ça marche spirituellement? Quand tu fais une petite avéra, hein, ici-bas, hein, tu fais une catastrophe en haut, nucléaire. Tu dis, mais j'ai rien fait, j'ai bougé un millimètre en bas. Toi, t'as bougé un millimètre. Mais le curseur que t'as bougé,
il a déplacé des montagnes.
Il a fait une catastrophe. Comme une réaction en chaîne. Toi, t'as bougé un rouage. Avec un rouage, tu peux faire tourner une usine. Un rouage, t'en as un petit rouage.
Très belle image.
Maintenant, d'un autre côté, tu fais une petite mitzvah, tu pries de tefillin.
Pareil,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une peau de cuir, il y a des parchemins dessus, j'ai mis sur mon bras.
Ça va bien?
Bien sûr. Qu'est-ce que je te dis? On te dit, ben, sache que ce que tu viens de faire, quand tu as fait une mitzvah, tu as fait un tremblement de terre en haut. Tu as fait les malachim, ils sont en train de danser en haut. Ils sont en train de dire, waouh, il a tout changé. Tu te dis, moi, j'ai rien fait, j'ai rien senti. Toi, tu n'as rien senti, mais il s'est passé des choses. Parce que, et toujours en parallèle, ce qui se passe en bas se passe en haut. Toujours en parallèle. D'accord, c'est comme il y a comme un connecteur, tu vois. D'accord. Tu bouges un tout petit peu en bas, ça bouge beaucoup en haut.
Le bien comme le mal.
Ça va dans le bien, ça va dans le mal. Alors c'est pareil. Lorsque Akadosh Baruch Hu te punit un petit peu en bas, c'est pas une punition, il te fait une petite galère en bas. Il te fait un peu transpirer. Une petite transpiration en bas correspond à des années-lumière de transpiration en haut. C'est-à-dire que chaque petite galère que tu as va te dispenser de beaucoup de galères en haut dans le Guéhinnom.
Tu es haram dans ce cas-là.
Ah, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il te dit, avec ça on comprend ce que le roi David dit, que les épreuves qu'Hachem envoie, c'est du chesed. Pourquoi c'est du chesed? Parce qu'avec un peu d'épreuves que tu payes en bas, je sais pas comment donner un exemple. Imaginez par exemple que tu dois 1 million d'euros à une banque, d'accord? Et le banquier te dit, bon, vous savez quoi? Vous êtes devant moi, mettez-moi un euro. Et 1 euro ici, à la banque, là-bas, ça correspond, au siège, ça correspond à 1 million. Ben, le gars dit non, je veux pas, ouais, 1 euro, non, ça m'intéresse pas. Après, il arrive, il a les justiciers qui arrivent, il dit, monsieur, vous devez 1 million. Il dit, laissez-moi payer 1 euro. Il dit, non, c'est trop tard. Quand tu étais devant moi, avec 1 euro, tu aurais payé 1 million. Maintenant, t'es parti, je peux rien faire pour toi. Ça nous permet de comprendre un petit peu le ratio, l'échelle qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'exemple qu'il donne. Kemachal, très bel exemple, hein, c'est un exemple qui m'a beaucoup marqué, ça. Kemachal, je suis en bas de la page 275. Kemashal, hilur, ve'atakat, atzel, ba'aretz, tefar. Comme, on peut prendre pour image, le mouvement du nombre qui se déplace d'un tefar, donc 10 cm sur le sol. Les fi hilur, galgal, hachemesh, barakia, à la fi milim, qui correspond, qui équivaut à un mouvement de plusieurs, plusieurs milles, donc c'est-à-dire un mille c'est 3 kilomètres, c'est-à-dire plusieurs milles, c'est-à-dire plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de kilomètres dans le ciel pour 10 centimètres en bas. Alors évidemment, ça correspond à l'approche de la Gemara qui dit que la Terre reste au même endroit et le Soleil tourne autour. Je sais que par rapport au schéma que nous avons aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est le contraire. Mais bon, on sait très bien que, je rentre pas dans le cours d'aujourd'hui, dans 10 ans, mais on sait très bien qu'avec la théorie d'Einstein, Einstein nous a appris que tout est relatif.
Tout.
C'est-à-dire qu'en vérité, pour être capable de déterminer qui tourne autour de qui, il faudrait qu'il y ait un élément qui bouge pas. Or, il n'y a rien qui bouge pas sur la Terre. Tout bouge. Donc on est incapable de dire qui tourne autour de qui. D'accord? On pourrait parler des mécaniques quantiques, etc. Donc, en tout cas, la Gemara est très claire, le Zohar est très clair que le point central, le point de rotation dans l'univers, c'est la Terre. Après, j'ai pas dit que tout tourne autour comme ça, que ça fait un cercle. J'ai pas dit comme ça. Ça peut tourner comme ça, comme ça, comme ça. C'est compliqué, c'est très compliqué.
Parce qu'elle tourne sur elle-même, la Terre.
Ah oui, tout tourne sur elle-même. Parce que tout tourne sur soi-même, et en même temps, on essaie de comprendre qui tourne autour de qui. Donc c'est compliqué, parce que le problème, c'est qu'on peut pas, quitter l'espace. Tu peux pas quitter l'espace. T'es tout le temps dans l'espace.
Hein?
Donc si tu quittes pas l'espace, tu peux pas savoir qui tourne autour de qui. Parce que l'endroit lui-même dans lequel tu te trouves tourne lui aussi.
Ouais.
On n'est jamais en dehors de quelque chose. On peut pas être en dehors. Ça, je refais la parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, ici-bas, l'ombre a bougé de 10 cm, ça veut dire qu'en haut, le soleil a bougé de beaucoup. Il y a eu un grand mouvement. Grand mouvement. Donc ça, c'est pour vous montrer que un petit pas de l'homme est un grand pas.
Pour les...
hein, pour le paraphraser, c'est la lune, non? Alors, un petit pas pour l'homme est un grand pas pour l'homme. Pour l'homme. Toi, t'as fait un petit pas. J'ai fait un petit pas. Mais ce petit pas que tu as fait, c'est un pas de géant. T'as tout changé. Dans le bien, comme dans le mal. On tourne la page. Veillez Teralken, les Enkets. Donc si déjà, on retrouve cette dimension matériellement. Et on le sait ça aussi. C'est-à-dire, je pourrais vous expliquer ça en physique aussi. On sait par exemple que si vous avez une barre qui est longue de 10 km. Et que cette barre qui est là, je vais la prendre. D'abord, ça va être très très difficile, mais je vais la prendre et je vais réussir à la bouger d'un millimètre. Un millimètre ici, ça veut dire que cette barre, pour que la barre bouge d'un millimètre ici, c'est-à-dire qu'elle a bougé de combien dans la circonférence? Elle a bougé des mètres et des mètres. C'est énorme. Et pareil, il y a un autre exemple qu'on donne aussi, tu prends une corde qui est très 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 longue, tu la bouges un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les répercussions?
C'est l'onde qui passe.
C'est l'onde qui passe, et après, quand tu arrives à la fin de la corde, se balance, c'est énorme. Pourtant, tu veux dire, mais je crois, hein?
C'est pas un bon exemple, ça c'est une transmission d'une corde.
Mais justement, comment tu expliques ça? Ça veut dire que même en physique, on voit cette notion que plus tu t'éloignes d'une chose, et plus la force est dans une dimension complètement différente. D'abord, la force se transmet, et la force devient très très forte. Plus tu t'éloignes, et plus la force est très grande.
Ah oui.
Donc, de la même façon, si déjà on voit ça en physique, on voit ça dans la nature, que un petit mouvement ici-bas sur Terre correspond à un grand mouvement dans l'espace, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de deux choses qui sont incomparables, lorsqu'il s'agit de ma vie ici-bas sur Terre et la vie chez Akadosh Baruch Hu. Que ce sont deux notions qu'on peut même pas comparer. Ça veut dire que ce qui est en haut et ce qui est en bas, tu peux encore avoir un ratio. Tu peux dire, bon, ça a 1 million de kilomètres, ça a 300 000 kilomètres, tu peux calculer. Mais est-ce que tu peux calculer la distance qu'il y a entre ta Neshama lorsqu'elle est en bas et lorsqu'elle est chez Akadosh Baruch Hu? C'est incalculable. Donc avec ça, tu comprends que si déjà matériellement, à une distance de... Combien de distance de kilomètres entre nous et le Soleil?
185 000.
Bon. Alors,
kilomètres.
Non, monsieur Medita, ça c'est la vitesse de la lumière.
C'est
300 000 km/h.
Ah, 385.
Ça c'est la vitesse de la lumière. Distance, il est où? Il nous aurait calculé tout de suite sur Wikipédia.
Regarde sur Internet.
Hein, distance, hein, oui, voilà. Distance de la Terre au Soleil.
385
000
km.
Vous êtes sûr? Non. Je sais pas. Ouais. Bon, peu importe. C'est beaucoup plus.
On serait cramé à 385 000, on craque.
Monsieur Benita, je crois que vous avez la tête dans la lune.
On crame. À 385 000 km, c'est à notre porte.
Béréchit.
Non,
c'est beaucoup plus.
Non, c'est 1 million de kilomètres. Ah. C'est 1 million de kilomètres.
Mais c'est très loin, le soleil, c'est très loin. On aurait cramé sinon.
Non, vitesse de la lumière.
Des
millions de kilomètres de lumière.
C'est la distance vers la lune.
1, 2.
Ah voilà. Ça c'est pour la lune.
La lune, c'est ça. C'est la lune. 380, c'est la lune. Voilà.
Et je vais t'aider, le soleil.
C'est Israël, c'est...
149 millions de kilomètres.
C'est 100 millions. C'est en millions de kilomètres. Et voilà. Vitesse de la lumière.
Donc c'est la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/h.
Ouais. Donc là, on est encore.
Et distance de la Lune, 385 000
km.
Kilomètres.
C'est moins loin.
Et là, c'est millions. Millions
de kilomètres.
Donc j'ai confondu la distance de la Lune.
Vous avez la tête dans la Lune.
Mais c'est ce qu'il a dit.
Côté d'une explosion au soleil.
Donc, on continue. Te dit si l'Admor Hazaken, il te dit que si déjà, entre deux notions que tu peux comparer, la Terre et le Soleil, tu vois tout de suite que un mouvement du Soleil correspond à une petite modification ici-bas. D'accord? Sauf que, il y a quand même une petite différence. C'est que dans le Soleil, moi, je peux pas bouger le Soleil. Le Soleil, il bouge, moi, je le bouge pas. Mais là, dans la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je peux bouger le Soleil et lui, il peut me bouger. Et là, on comprend cette idée qu'avec un petit mouvement en bas, en fait, tu bouges, fais un grand mouvement en haut. Et ça, c'est valable matériellement. À plus forte raison spirituellement. Que spirituellement, quand tu parles à Kadosh Baruch Hu, quand tu essayes de comparer le Gan Eden et le Gehinnom et notre monde, tu comprends qu'une toute petite souffrance ici-bas, si tu la mets en valeur réelle, en valeur de Gan Eden, de Gehinnom, en valeur céleste, c'est aucun rapport. C'est beaucoup plus fort que ça. Page 276. L'idée qu'on vient d'expliquer est infiniment plus vraie concernant la descente des mondes depuis les degrés les plus hauts jusqu'à ce monde physique. C'est encore beaucoup plus fort. Ça veut dire que le ratio qu'il y a entre Maneshama ici-bas sur Terre et Maneshama lorsqu'elle est en haut, incomparable, incommensurable. Et il dit, Vekanoda, Mimash et Katouv, comme c'est connu, de ce qui est écrit de Zohar Kadosh dans le Zohar, mais Inyan Aliyat Olamot Elyonim, Beitarota Dittata. Le Zohar a un commentaire très intéressant. Le Zohar, il te dit, tu sais, la Gemara te dit que lorsque tu vas offrir Off ou Banyona, Otor au Komet Mincha, c'est quoi les Korbanot? C'est quoi un Korban? Un Korban, c'est une offrande qui va être soit un animal, si tu n'as pas les moyens, ça va être un oiseau, un moineau. Si t'as pas les moyens, ça va être la farine. À la fin, ça sera une omelette. Franchement, tu vas te poser la question. Tu vas dire, mais attends, mais elle va faire quoi, mon omelette?
Ouais.
Elle va pas aller loin, mon omelette. Le Zohar pose la question. Et le Zohar te dit, tu sais, l'omelette que tu as apportée, elle a bouleversé les mondes en haut. Oh, la motte et Lyonie, il y a un bilboule en haut. Alors le Zohar pose la question. Le Zohar, il dit, mais je comprends pas. Si encore t'as fait un grand bouleversement dans ta vie, je comprends que le bouleversement de ta vie amène un bouleversement en haut. Et là, tu parles d'une personne qui est venue au Beth Amikdash, qui a amené une omelette. Et d'un côté, tu me dis que cette omelette qu'il a apportée, elle va chambouler les mondes en haut. C'est pas cohérent. Ça marche pas, c'est pas comme ça que ça marche.
Parce que l'effort de l'omelette, de celui qui a offert l'omelette, il est beaucoup plus fort que celui qui a offert
l'omelette. Non, même pas. C'est ce que je viens de dire. Si encore on avait dit que c'est le même ratio dans le sens que moi, j'ai fait un effort en bas. Alors ça va faire un effort en haut, je comprends. Mais c'est pas ce qui se passe. On te dit, tu fais une petite mitzvah, tu apportes une omelette en bas, et ça bouleverse le monde en haut. Comment c'est possible? Et on te dit, aliyat olamot elyonim. Ça veut dire qu'il y a une élévation dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire que tous les sédikim en haut, tout le monde attend. Ils attendent, un moment, on dit, on sent une grande élévation, une poussée, tous les mondes, imaginez tous les mondes célestes qui montent. Et on dit, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben il y a un juge en bas, il a fait une omelette, il a fait un sacrifice.
Il a bougé une oreille.
Il t'a une poussée en haut, tous les tzadikim, tous les malachim, tous les olamot, l'ensemble des sphères célestes monte pour une omelette. Il y a un problème. Et toi quand tu vois ça, tu dis mais je sais pas ce qu'ils ont vu aujourd'hui quoi. Mais c'est la réalité, ce que dit le Zohar. Comment tu expliques ça? Et ben c'est exactement l'idée qu'on vient d'expliquer. C'est que toi tu crois qu'en apportant ton omelette t'as rien fait, mais en apportant ton omelette t'as fait une mitzvah. Et en faisant une mitzvah, t'as bougé un peu le curseur en bas. Et quand tu bouges un peu le curseur en bas, le petit mouvement d'en bas correspond à des milliers de kilomètres en haut. Donc en haut, t'as fait un bouleversement. Tous les tzadikim, tous les malachim, tout le monde a une poussée, ils sont montés par ton omelette. T'imagines? Alors ça, c'est pour une petite mitzvah. Mais imaginez quand tu fais une grande mitzvah en bas. Ce que toi, t'appelles une grande mitzvah. C'est-à-dire que quand tu bouges d'un millimètre, ça fait un tremblement de terre en haut. Tremblement de terre, tremblement de ciel. D'accord? Maintenant, quand toi tu fais une grande mitzvah, tu bouges d'un kilomètre en bas, combien ça bouge en haut? Tu crées des mondes. Mais nous, on comprend pas ça. Le Zohar, c'est les mots du Zohar, ça. Le Zohar, il te dit, tu crées des mondes, tu détruis des mondes, tu fais ci, tu fais ça. On comprend pas. J'amène souvent cet exemple. pour expliquer comment on se rend pas compte, comment avec nos mitzvot on construit, on détruit. C'est comme on raconte qu'une fois on a fait rentrer quelqu'un dans un dans une cabine de pilotage et on lui a donné des instructions. On lui a dit ce bouton tu peux appuyer, ce bouton tu peux pas appuyer. Bon, le problème c'est que lui il croit qu'il est dans un simulateur de vol, c'est-à-dire qu'il voit des écrans mais en fait il voit pas trop, c'est brouillé, etc. Et donc on lui dit attention, là il faut appuyer, là il faut pas appuyer. On lui dit ça, il faut pas appuyer. Maintenant les boutons ils ont l'air tentants. C'était les boutons qui sont rouges, qui clignotent, etc. Et tout. Donc lui il appuie. Il se passe rien. Donc il appuie, il croit que c'est un sapin. Donc il appuie partout. Et il se passe rien. Donc il continue, il appuie le bouton. Après dès qu'arrive la fin du film, on lui dit maintenant on va ouvrir le rideau, on va te montrer ce que tu as fait. Et tu vois, tu te rappelles quand t'as appuyé sur le bouton là, t'as construit une ville. Tu te rappelles quand t'as appuyé sur le bouton, le petit bouton rouge là-bas, t'as fait sauter la ville. Je dis mais c'est un petit bouton, mais combien de boutons il faut appuyer pour faire sauter la planète?
Alors, celui qui fait le
combien de boutons il faut appuyer aujourd'hui pour envoyer l'arme atomique?
Un bouton.
Il y a des codes et tout, mais à la fin, une fois que t'as fait les codes, il a enlevé les codes de sécurité. Je sais pas combien. Enfin, il y a 10 codes de sécurité pour enlever. Alors, il y a un code, 2 codes, 10 codes. À la fin, une fois que t'arrives au 10e code de sécurité, qu'est-ce qu'il manque? Un bouton. T'appuies sur un bouton, tu fais tout sauter. Donc ça, on le voit dans notre vie. Un bouton, tu peux tout faire sauter. Un bouton. Alors là, hein, on est d'accord?
Une cellule,
tu fais tout sauter.
Une petite cellule,
tu fais tout sauter. Alors imagine-toi maintenant si tu parles par rapport à Kadosh Baruch Hu. Que par rapport à Kadosh Baruch Hu, on veut t'expliquer que tu fais une petite mitzvah, tu fais tout sauter. C'est mamache comme ça. On se rend pas compte, nous on croit que c'est de la blague. Mais c'est très très sérieux. Qu'avec une petite mitzvah en bas, on bouleverse le monde en haut. Et il te dit, peut-être on aurait pu dire, bon d'accord, ça je comprends ce que tu m'as dit, mais peut-être que ce concept est valable pour des mitzvot spéciales, comme le korban. Effectivement, peut-être que pour des mitzvot spéciales, comme les sacrifices, là, bon, c'est une mitzvah qui nous dépasse un petit peu, on va dire que...
Ça serait dangereux voilà. Si c'était seulement le korban, parce qu'aujourd'hui, on peut plus le faire.
Oui, mais voilà, mais qui te dit que ce concept s'applique aussi à toutes les mitzvot? Qui te dit que lorsque tu as mis les tefillin ce matin, tu as pris 5 minutes pour mettre les tefillin, qui te dit que tu as bouleversé les mondes? Qui te dit? C'est pas un korban, c'est pas la même chose. Ça c'est le Harizal qui dit. Vechen hu bechol hamitzvot ma'asiyot kanodam Harizal. Le Harizal nous explique que ce que le Zohar a expliqué à propos des korbanot, qu'avec une petite mitzvah, un petit korban, on bouleverse le monde. Ce principe s'applique pour toutes les mitzvot, toutes. Et même le mitzvot ma'asiyot, le mitzvot concrète. C'est une petite mitzvah, toute petite mitzvah. Par exemple, quelqu'un il était là, il avait un toute petite mitzvah, il a dit une bonne parole sur quelqu'un. Ou bien il s'est retenu de dire un lashon hara sur quelqu'un. Petit truc, il y aurait 2 secondes. Il dit, mais j'ai rien fait. Avec ta petite action, t'as bouleversé le monde. C'est maman, j'ai la réalité comme ça. Et ça, avec ça, on comprend hein, ce que dit la Gemara sur un pasouk. On a eu dans la paracha il n'y a pas longtemps, la paracha Kedoshim. On termine le Chumash Vaikra cette semaine. Dans la paracha Kedoshim, il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'on a vu? C'est écrit Vezeu Shamru Razal al Pasuk Veitkadishtem Veitem Kedoshim. Là-bas, la paracha, elle disait une phrase très bizarre. Elle dit vous vous sanctifierez et vous serez saint. Vous vous sanctifierez et vous serez saint. En français, ça s'appelle un
pléonasme.
Parce que si je me suis sanctifié, c'est que je suis saint.
Hein,
Non, mais je comprends, mais c'est comme si tu me dis vous mouillerez, vous serez mouillé. Ben, si je me suis mouillé, c'est que je suis mouillé. D'accord, ça va. Alors, comment la Gemara explique ça? Je passe à la page suivante. Adam mekadesh atzmo me'at milemata mekadeshim oto harbe milemala. Comment explique la Gemara? La Gemara dit comme ça. Un homme se sanctifie un peu en bas, on le sanctifie beaucoup d'en haut. Et c'est ça le sens du verset. Vous vous sanctifierez et vous serez saint. Sous-entendu, c'est en 2 temps. Vous vous sanctifierez avec un petit acte et vous serez saint par moi, Hachem, qui va vous sanctifier, par une grande Kedusha. Au point que tu vas dire, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Quand vous revenez l'exemple du pilote. Le pilote qui est là, on lui ouvre le rideau, on dit, voilà, t'as fait ça. Le pilote dit, mais c'est pas moi qui ai fait ça, moi j'ai appuyé sur un bouton. Il dit, oui, c'est toi qui as fait ça. Tu veux que je te montre le rouage? Je te montre le rouage. T'appuies sur ce bouton. Et ce bouton, il enclenche un circuit. Qui enclenche un autre circuit? Qui enclenche un autre circuit? Qui enclenche un autre circuit? Etc. Ça fait jusqu'à la destruction.
Comment expliquer celui qui fait tant de mitzvot et ça? Il y a un bouleversement dans le ciel. Et dans le même temps, Dieu lui envoie des épreuves.
Ah.
On ne comprend plus rien, là. Hein.
Alors maintenant, justement. on comprend pour les mitzvot, on comprend pour la verot, on comprend pour les salaires, on comprend pour la punition. On comprend pour les mitzvot que quand tu fais une petite mitzvah en bas, ça vaut de l'or en haut. On comprend pour les avérot que lorsque tu fais une petite avéra, t'as détruit en haut. Grosse destruction. C'est pour ça que le roi David a dit, on l'a vu dans le cours la semaine dernière, le roi David a dit, ma faute est tout le temps devant moi. Parce que le roi David, plus il s'est levé, et plus il réalisait que la faute était toujours là, il fallait la réparer encore plus profond. Parce que l'impact d'une faute est éternel. On n'y pense pas, on ne doit pas y penser, mais c'est la réalité. Donc, une mitzvah a un impact éternel. Une avéra aussi a un impact éternel. Maintenant, de la même façon, le salaire. Quand tu fais une petite mitzvah, le salaire qu'Hachem te donne, c'est un salaire qui est énorme. Quand tu arrives en haut, tu dis, imagine une personne, il a fait un tout petit effort, il a fait un tout petit truc, tu vois, il a déplacé l'assiette d'un centimètre, il arrive en haut, on lui fait un grand cocktail, bravo, quand la cavotte a fait une mitzvah, t'as déplacé l'assiette d'un millimètre. Il va dire, mais c'est disproportionné, qu'est-ce que vous racontez? C'est pareil dans la verrote aussi, dans les punitions. Là, il arrive en haut, on lui dit, il attend avec les fourches, c'est pas chez nous, ça. Il attend, il dit, on t'attend, etc. Et ça va, doucement, parce que j'ai rien fait. Mais c'est ça, tu te rends pas compte le ratio qui est entre les deux. Il y a une dualité, mais qui est très grande. Ça veut dire que tout ce que tu fais en bas correspond à quelque chose qui se passe en haut.
Oui, c'est vrai.
Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent, c'est important de préciser ça, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que on est comme des sortes d'extra-célestes ici, et les extraterrestres, d'accord? Extra-célestes. C'est-à-dire, Dieu, il te prend, il te met en bas, il dit, écoute, fais ce que tu as à faire en bas, essaie de bien te comporter, et quand tu arrives à 120 ans, je te reprends, on fait les comptes. Beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ils pensent qu'ici, on est autonome. Je suis bien, je suis tranquille, je fais ce que j'ai à faire, et à la fin de la vie, il me reprend, il fait les comptes. Entre-temps, si j'ai gagné, j'ai perdu. C'est comme un business, quoi. C'est-à-dire qu'il a investi 1 million d'euros, après, il te dit, bon, vas-y, fais les affaires, tu gagnes, tu perds. Arrive la date d'arrêter des comptes, on fait le bilan, t'as gagné, t'as perdu. C'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'on a une relation constante avec Hachem.
Tout le temps.
Pas seulement quand on remonte.
Il y a la vision déjà.
C'est la fridouche. Pas seulement quand on remonte. Même lorsqu'on est en bas. Même lorsqu'on est en train de vivre, maintenant, de parler, de manger, de boire. Chaque action qu'on fait correspond à quelque chose en haut. A un impact tout de suite sur ce qui se passe en haut. Mais ça, on l'explique en physique aussi, vous savez. On l'explique en physique, on n'arrive pas à le quantifier, mais on sait que c'est vrai. Vous savez que par exemple, là, je suis en train de parler devant une bouteille de coca. La bouteille de coca ne sera plus jamais la même avant le mot que j'ai dit et après le mot que j'ai dit. J'ai modifié la structure des molécules de la bouteille, en parlant juste devant la bouteille. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'ai modifié la structure des molécules de la bouteille, ça veut dire que j'ai modifié la structure de ce qu'il y a autour, et ça va jusqu'à l'espace. Au fin fond de l'espace. C'est-à-dire que jusqu'au fin fond de l'espace, en vérité, en disant une parole de Torah, j'ai propagé une onde de Torah maintenant, qui est en train d'aller jusqu'à la fin de l'espace. C'est la vérité ce que je vous dis. Et la preuve, c'est qu'on arrive à le faire avec la radio, par exemple. Comment ça marche la radio?
On émet un son, un récepteur.
La radio, une onde que tu émets, n'est pas limitée. Il n'y a rien qui la bloque. Sauf si elle est devant un mur, évidemment. Elle est devant un mur. Tant que tu la bloques pas, tant qu'il n'y a rien qui la réfléchit, elle avance, elle monte, elle peut aller à des milliards de kilomètres. Il faut avoir un bon récepteur pour la capter. Ou un bon émetteur qui envoie très loin. Un des deux. Mais si t'as un bon récepteur, tu peux capter n'importe où. Donc dites-vous que la parole de Torah que je suis en train de dire ici maintenant, est en train de changer le monde. Vous imaginez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que moi je suis en train de dire un mot de Torah. Ce mot de Torah, dans la lune, dans le soleil, le mot de Torah, alors je ne sais pas à quelle vitesse se propage une onde. Je crois que c'est à la même vitesse que la lumière, je ne sais pas, il faudrait vérifier. À quelle vitesse se propage une onde? Mais sachez que chaque chose qu'on fait, il y a une onde qui se propage. En physique, ça explique ça, on le sait. Aujourd'hui, il y a même des services secrets qui sont capables, on ne sait pas jusqu'où ils sont capables d'aller, ils sont capables de capter plein de choses, de l'espace. Ils captent des ondes qui passent, ils captent. On capte des choses. Donc tu dis, ça c'est de la physique. On est juste là quand on parle de la Kadosh Baruch Hu. Quand on t'explique que chaque action que tu fais a un impact. Il n'y a rien qui est autonome. L'être autonome n'existe pas. Chaque action que tu fais a un impact. Et l'impact est de taille. L'impact est exponentiel. C'est-à-dire que tu bouleverses le monde. En bien comme en mal. Donc ça explique plusieurs choses. Ça explique l'impact du mitzvah. Ça explique l'impact du navera. Ça explique la force d'une récompense. Et ça explique aussi la force d'une punition. Et ça explique pourquoi on a tout intérêt à être puni en bas et récompensé en haut. Ben oui. Parce que quand tu es puni en bas, okay. Tu payes 1 pour 1 milliard en haut. 1 en bas correspond à 1 milliard en haut. Donc une petite punition d'en bas correspond à 1 milliard de punitions d'en haut. Et d'un autre côté, quand tu es récompensé en bas, une petite récompense en bas correspond à une très grande récompense en haut. C'est pour ça qu'on dit que les tzadikim, ils souffrent dans ce monde-ci et reçoivent leur salaire en haut. Et nous, on ne comprend pas comment ça marche. Je dis, mais pourquoi ils souffrent? Mais en vérité, c'est le vrai chesed pour eux. C'est que le dernier endroit où tu vas recevoir ton salaire, c'est en bas. Parce que en bas, quand tu reçois un en bas, ça correspond à un milliard en haut. C'est compliqué, hein.
L'histoire, la vie, elle est que en bas. Il n'y a aucune vie en haut.
Non, si tu veux, la vie se passe en bas, mais se vit en haut. C'est en haut qu'on voit réellement les retombées. Mais tout se passe en bas.
Bah, c'est qu'on voit, mais on les voit pas.
On voit pas l'impact, mais ça se passe en bas. La salle des machines est ici. En haut, il n'y a plus de machines. En haut, il n'y a que l'impact. Donc ça fait peur quand on dit ça.
Ça reste
complexe, parce que on parle de choses qu'on ne voit pas. Ça reste complexe.
Et difficilement.
Mais on comprend pourquoi, vous savez, on dit que la Gemara a dit qu'une personne qu'on lui fait un miracle ici-bas, ça lui enlève beaucoup de mérite en haut. C'est pour ça qu'il y a des gens qui priaient jamais pour un miracle. Parce qu'il dit, si on me fait un miracle en bas, c'est-à-dire qu'un miracle, c'est un bouleversement en bas. Donc imaginez un bouleversement en haut, ça correspond à quoi en haut? Un bouleversement en bas, il y a un miracle, un bouleversement. Ça correspond à quoi en haut?
Pourquoi?
C'est un méga, méga, méga bouleversement. Donc il se dit, le salaire qu'Hachem a donné ici-bas, qui est un méga salaire, correspond à un salaire méga, méga en haut. C'est beaucoup plus fort. Donc j'ai pas envie d'avoir un salaire en bas.
Pourquoi il aurait pas pu faire deux mondes spirituels?
Mais justement, c'est le chidouche. Le chidouche, c'est que c'est pas deux mondes.
Tu payes pour la même chose.
C'est pas que
la monnaie est la même.
C'est les mêmes joueurs.
Ouais, mais par contre, c'est pas les mêmes choses. Parce que t'as un côté qui est spirituel et un côté qui est matériel.
C'est le même joueur.
Mais c'est
toi,
pas
tu crois que t'as tapé sur un ballon et que t'étais dans un stade, dans ton quartier, dans ta cité. T'as tapé sur un ballon, t'as gagné des milliards. T'es pas rendu compte.
C'est comme si tu veux jouer au rugby avec une balle de hand.
Non, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est un bon exemple. Toi, tu crois, tu dis, mais j'ai rien fait. J'ai fait une mauvaise passe. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait. Une mauvaise passe, j'ai mal passé. Qu'est-ce qu'il y a? On est dans la cité. C'est rien passé. Tu dis non. Tu joues, là. C'est-à-dire que là, t'as perdu des milliards. Là, t'as gagné des milliards. Ça se passe maintenant. C'est maintenant que ça se passe. C'est encore plus fort que ça. C'est parce que dans l'exemple du match, c'est des retombées qu'il y aura. Là, c'est pas des retombées qu'il y aura. C'est ce que je fais maintenant. C'est-à-dire qu'en faisant une mitzvah, je construis. Avec ma mitzvah, je construis. C'est pas une retombée de ma mitzvah. Je suis en train de construire. Avec une avéra, je détruis. Ma avéra détruit. C'est exponentiel.
Alors, si le bien et si le mal, il est déjà prévu.
Non, il n'est pas prévu. C'est toi qui le fais.
Il est déjà planifié.
Non, j'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit.
Dieu te l'a mis en toi, déjà.
Non, j'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est simplement que il faut comprendre l'importance d'une mitzvah, la gravité d'une avéra, et comprendre que des fois, des gens se plaignent, mais pourquoi je suis pas récompensé pour ce que je fais? Dis-toi que plus la récompense arrivera tardivement, et mieux c'est pour toi. Parce qu'en haut, tu gagnes lourd. En haut, un ici vaut un milliard en haut. Donc c'est mieux de ne pas recevoir en bas. D'un autre côté, quand tu as des fois un petit karcher en bas, t'évites un très très gros karcher en haut. Donc le top en vérité, c'est d'être puni en bas et récompensé en haut. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara a dit que les tzadikim, leur vie est pleine de souffrances en bas. Pourquoi? Comme c'est le peu d'avérotes qu'ils ont fait, ils sont nettoyés en bas. Quand ils arrivent en haut, ils profitent tout. Alors que les réchaïm, qu'est-ce qu'ils font Hachem avec eux? Pourquoi les réchaïm, ils kiffent grave dans ce monde? Parce que les réchaïm, pour le peu de qu'ils ont fait, Hachem dit je te récompense ici bas. Comme ça, quand tu arrives en haut, t'as rien.
Ah.
C'est dur, ça.
Oui, mais alors, les gens qui sont riches, qui font des...
Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est la question de Job. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'une personne, est-ce que ça veut dire qu'une personne qui est riche et qui est religieuse, ça veut dire qu'il y a un problème, quelque part? Je n'ai pas dit ça. Mais ça veut dire que quelque part, ça nous permet de comprendre qu'on n'a pas tous les clés en main. C'est ça, en vérité. On comprend que, On n'a pas du tout assez de recul pour comprendre ce qui se passe et pour comprendre ce qui est bien pour moi et ce qui est pas bien pour moi. Toi, tu crois, tu dis, moi, je suis dans un monde, je suis vis dans ma bulle, donc ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu dis, c'est ce que tu crois. Bah, tu te rends pas compte que peut-être pour une chose que tu vas te retenir ici, tu vas gagner beaucoup en haut, et une chose, une bêtise que tu vas faire ici, tu vas payer très cher en haut. Donc, réfléchis. Mitzvah, avera, salaire, punition. Quatre éléments. Ces quatre éléments, on a parfaitement compris. La dualité, le ratio, l'échelle constante qu'il y a. C'est constant, constant, constant. Ça s'arrête pas. Ça fait peur. Moi, je dis ce chapitre-là, c'est un des chapitres qui m'a le plus marqué dans le Tania. Parce que quand tu lis ça, tu dis, ça rigole pas. Et ça correspond à ce qui est écrit dans les textes. Parce que c'est vrai, le Zohar te dit clairement. Il te l'a dit, il te l'a annoncé. Il te dit, tu vois, tu fais une mitzvah, t'as élevé les mondes en haut. Alors, quand tu lis le Zohar, tu comprends pas, tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte d'élever les mondes? C'est quoi ces mondes? On n'est pas dans un jeu, et on n'est pas dans FIFA, on n'est pas dans un jeu, ou Fortnite, comme ils font les jeunes, d'accord? On n'est pas dans un monde, ça veut dire quoi, les mondes? Mais bien sûr, tu dis, petit acte ici, ça peut, c'est une onde de choc. Une onde de choc, positive ou négative. Et donc c'est ça le sens qu'on a vu dans la paracha Kedoshim. Vous vous sanctifierez et vous serez saint. Toi tu fais un petit effort, vous vous sanctifierez. Et Hachem te dit maintenant, je te montrerai et vous serez saint. Et pas je vous sanctifierai. Si Dieu avait dit vous vous sanctifierez et je vous sanctifierai, j'aurais dit bon, l'homme il fait un petit effort, et après Dieu il fait le reste. Mais c'est pas ce qui est écrit. Hachem n'a pas dit vous vous sanctifierez et je vous sanctifierai. Il a dit vous vous sanctifierez et vous serez saint. Ça veut dire vous vous sanctifierez un petit effort en bas et vous serez saint hein, par l'onde de choc que va produire votre kedusha que vous-même vous recevrez par vos efforts. C'est pas moi qui vais le faire, c'est vous qui allez le faire. La plus grande récompense, c'est quoi? C'est lorsqu'on te montre ce que tu as construit. La pire des punitions, c'est lorsqu'on te montre ce que tu as détruit. C'est ce qu'on a expliqué dans Pirkei Avot la semaine dernière. Pirkei Avot, chapitre 4. Ben, la Mishnah, elle dit comme ça. Elle dit, le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Et la punition d'une avéra, c'est la avéra elle-même. Alors, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là au cours, Shabbat après-midi, on a posé la question, on a dit, mais c'est quoi cette histoire? Le salaire d'une mitzvah est une mitzvah. Imaginez, ça veut dire une personne qui travaille, elle a travaillé un mois pour toi, arrive le moment de la paye, il dit bon, je vais te payer. Il dit non, ta paye, c'est que tu as travaillé. Ça ne marche pas comme ça, il me paye. Comment tu peux dire que le salaire d'une mitzvah est une mitzvah? Le salaire d'une mitzvah est une mitzvah? Mais non, la mitzvah, c'est l'effort, mais il faut un salaire. C'est quoi le plus grand salaire? Explique le commentaire. C'est lorsque Hachem te dit, je vais te montrer ce que tu as produit avec ta mitzvah. Quand tu vois ce que tu as produit avec ta mitzvah, tu dis Hachem, c'est bon, j'ai compris. Pas besoin de récompense, c'est ça ma récompense. Et de l'autre côté, la punition d'une avéra, c'est pas la claque que tu vas recevoir. Hachem, tu dis écoute, je vais te montrer ce que tu as détruit avec ta petite avéra. Tu vois, tu voulais faire un petit plaisir, tu t'es laissé aller. Je vais te montrer ce que ce petit plaisir a coûté dans le monde. Tu vois ça, tu dis c'est moi ça, toi. Après, la claque qui va te mettre, c'est rien, c'est walou à côté de ce que tu dis. Srar mitzvah, mitzvah. Srar avéra, avéra. Le salaire d'une mitzvah est une mitzvah. La punition d'une avéra est l'avéra elle-même. C'est ce qu'on vient de dire ici. C'est-à-dire qu'on doit avoir la emouna, que c'est pas seulement une relation de cause à effet, que j'ai fait quelque chose, donc je serai puni ou je serai récompensé. C'est moi-même qui crée la punition et c'est moi-même qui crée la récompense. C'est-à-dire qu'avec ma mitzvah, je crée une réalité positive ou je crée une réalité négative. C'est moi-même qui l'a fait. T'as planté l'arbre, tu l'as bien planté, il poussera bien. Tu l'as mal planté, il poussera mal. C'est pas que comme t'as mal planté, alors on t'a puni qu'il va mal pousser. C'est pas une punition. T'as mal éduqué ton gosse, il est mal sorti. C'est pas une punition. C'est un résultat. C'est une conséquence directe. Alors c'est une conséquence directe. C'est même pas une cause et un effet. C'est une conséquence. Tu as fait, c'est ce qui est sorti. Donc, de la même façon, tu as fait une mitzvah, ta récompense, tu l'as générée toi-même. Toi-même. C'est énorme, ça.
Et cette mitzvah, elle ne reste pas suspendue. Il faut quelqu'un d'un sadique pour la faire descendre ou pour la faire monter?
C'est l'autre question, ça. Il est vrai qu'effectivement, c'est expliqué dans d'autres chapitres de Tania, que parfois on fait une mitzvah sans kavana. Et quand on fait une mitzvah sans kavana, la mitzvah reste bloquée. D'accord? Dans le premier monde, il faudra, après une mitzvah une fois avec kavana, pour la faire débloquer, pour qu'elle monte. Mais elle est déjà là. C'est comme un compte bloqué. Vous avez un compte bloqué, mais l'argent est là. Alors il faudra un jour quelqu'un qui débloque cet argent. Vous aurez un contact avec le banquier, il vous dira, bon, je vais te le débloquer.
Ça débloque automatiquement après 120 ans ou non?
Il faut travailler un petit peu pour ça. Il faut les codes.
Dis-moi, à l'école, on te donnait un cahier correspondant. Tu sais, chaque mois, tu avais tes notes.
Oui.
Bien, pas bien. Et là, tu vois les notes.
Oui.
Automatiquement, tu dois savoir ce que tu dois faire, pas faire. Là, c'est pareil, quand je vous roule de nous envoyer des notes, savoir à quel moment tu dois reprendre.
Mais elle envoie les appels de phare dans le temps.
Les appels de phare, c'est dans quoi elle envoie? Dans une pochette surprise, dans un songe?
Elle envoie là. Elle envoie de temps en temps.
Mais c'est ça, non, voilà.
C'est ce qu'on a expliqué. Ce qu'on a expliqué la semaine dernière. On a dit que quand Hachem t'envoie quelque chose dans la vie, ne dis pas, oh, je le mérite pas. Dis, pose-toi la question, quel message Hachem m'envoie? J'ai pas beaucoup d'expérience, mais avec le peu d'expérience que j'ai, je peux vous dire que très souvent, quand on s'arrête un petit peu, quand on a des fois des galères qui arrivent, tout le monde a des galères qui arrivent, quand on s'arrête un petit peu, on trouve des pistes.
Nous, on comprend.
On trouve des pistes cohérentes. Après, bien sûr que les mauvaises langues diront c'est de l'autosuggestion. C'est-à-dire, tu dis que c'est ci parce que ça, on trouve. Et quand tu as compris le message, 5 sur 5, Hachem y règle le problème. On maîtrise pas le chemin d'Hachem. On peut pas dire que si j'ai réglé le problème, alors automatiquement, le problème, j'ai réglé mon problème, le problème s'arrêtera. Je maîtrise pas le chemin d'Hachem. Mais bien sûr qu'il y a des appels de fin. C'est une chance quand on a un appel de phare.
Oui, c'est déjà un avertissement.
On dit que le rachat, la malchance qu'il a, c'est qu'à un moment, Hachem arrête de lui envoyer les appels de phare.
Boum.
Et il croit que tout va bien. Et en plus, il croit qu'il est récompensé parce qu'il vit très bien. Mais pourquoi il vit très bien? Parce que Dieu lui donne maintenant toutes les mitzvot qu'il a fait, parce que qui ne fait pas de mitzvot? Tout le monde fait des mitzvot. Hachem dit, je vais te les récompenser. Il s'éclate. Mais quand il arrive en haut, il est clean. Pas clean de pas clean de Averot, il est clean de mitzvot. Il n'y a plus aucune mitzvah. Hachem dit, bon, maintenant, on repart à zéro maintenant. Il n'y a rien maintenant. On va tout détruire. De l'autre côté, voilà. Ça fait réfléchir tout ça. Alors, on continue un peu dans les mots.
Mais enfin, ce monsieur-là qui est monté, qui a fait tant de Averot, vous avez dit l'autre fois que sa Neshama n'a pas fini le travail et que Dieu la renvoie dans quelqu'un d'autre pour qu'elle continue
le travail. Oui, parce que
donc elle ne souffre pas.
Parce qu'effectivement, quand on arrive en haut, il y a plusieurs options. Il y a une option dans laquelle Hachem estime qu'on peut régler le problème sur place, ad hoc, d'accord. Donc Hachem dit, bon, pas besoin de faire redescendre, il est un peu sale, mais on peut nettoyer, etc. Mais Hachem pourra jamais faire à la place de la Neshama ce qu'elle n'a pas fait. Donc s'il voit que la Neshama a fait ce qu'elle devait faire, mais qu'elle s'est salie, on peut la nettoyer. Mais s'il voit que la Neshama elle avait une mission qu'elle n'a pas faite, eh ben on doit le renvoyer. J'ai envoyé mon fils faire les courses. Il est revenu, il m'a acheté 5 produits sur 6. D'accord? Maintenant, il m'a acheté aussi 10 produits, mais parmi lesquels il y avait des produits que je ne devais pas prendre. J'ai dit, bon, pourquoi t'as acheté ce que tu ne devais pas acheter? Il y a une autre question. Mais s'il manque un produit que je lui ai demandé et qu'il n'a pas acheté, il doit repartir. Il doit repartir pour acheter ce qui manque. Il manquait ce produit.
Alors justement, alors cette Neshama, il lui manque un certain nombre de fois, elle repart.
Elle repart.
Donc elle souffre.
Elle repart ou... s'il lui manque quelque chose. Mais bien sûr qu'elle souffre. Il y a le purgatoire
en haut. Qu'elle est revenue en bas.
Hein? Oui, mais entre temps, elle a souffert en haut, elle a nettoyé. C'est très très dur la souffrance des Guéhinnom. Vous savez, bon, je ne sais pas si on doit croire toutes les personnes qui nous racontent les passages qu'ils ont eu dans le Guéhinnom, d'accord.
Les passages.
Il y a beaucoup de charlatans, mais bon.
C'est le passage.
Non, il y a des gens qui te racontent qu'ils ont eu un coma, et ils ont vu.
Le
trou noir. Le trou noir, etc.
Ça finit pas avec ça.
Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'imagination. NDE. Je te raconte les fourches, je te raconte le Satan, etc. Et... c'est pas de chez nous, hein.
Non, il te parle de NDE.
Voilà. Alors, voilà. Je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que ce qu'eux, ils racontent, je sais pas si eux, ils racontent c'est vrai ou c'est faux. Mais ce qui est clair, c'est que ces notions sont vraies. C'est-à-dire, la souffrance du Guéhinnom est une souffrance très très dure, qui n'a rien à voir avec toutes les souffrances qu'un homme peut endurer. L'homme qui a le plus souffert sur cette terre, c'est qui? C'est Job. Et on ne sait même pas si c'est un homme, parce que il y a un avis dans la Gemara qui dit que la souffrance de Job est tellement forte qu'on ne sait pas s'il y a un être humain qui aurait pu tenir cette souffrance. Il n'y a rien de pire que de souffrance qui dure. Même si une personne souffre une souffrance, un martyr, une souffrance de la mort, au moment où il meurt.
C'est toute sa vie, lui.
Combien de temps ça dure? Imaginez une personne qui dure toute sa vie des souffrances de martyr. 70 ans, c'est impossible. Il ne peut pas tenir, il craque, il explose. Il ne peut pas tenir. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que l'histoire de Job, c'est une histoire pas inventée, c'est une histoire hypothétique, une histoire imaginée. D'accord? Une histoire qui est faite exprès pour te montrer jusqu'où ça peut aller.
C'est limite.
Ouais. Mais dites-vous que toute la souffrance de Job ne vaut pas une heure de Guéhinnom. Comment c'est écrit? Le pire qu'à vote. On va lire cette semaine, chapitre 5. Un instant de plaisir dans ce monde-ci, un instant de plaisir dans le monde futur vaut plus que toute la vie de ce monde-ci. Et une mitzvah dans ce monde-ci vaut plus que toute la vie du monde futur. Vous avez compris le... D'accord? C'est-à-dire qu'une petite mitzvah que tu fais, ici-bas, vaut plus que tout le monde futur. Mais d'un autre côté, un instant de plaisir en haut vaut plus que tous les plaisirs en bas. Voilà. C'est pour ça que tu l'aimes chez un Pirkei Avot, tu dis, ce monde n'est qu'un tremplin pour aller vers le monde futur.
Vestibule.
Voilà. Vestibule, bien sûr. C'est la réponse. Ouais. Bonsoir. Guy, on passe à la page 277.
Il n'a jamais réclamé à l'Éternel. Pourquoi tu me fais ce pas?
Bien sûr qu'il a réclamé. Ah bah dis donc, il a fait que ça.
Non, mais comment tu m'enlèves mes enfants et tout? Mais il a continué à.
Non, il a réclamé. Il parlait avec Dieu.
Il parlait avec
Et comme il a dit, Dieu. Non, mais il a dit, monsieur Yazid, Dieu lui a répondu pas mal de choses.
Exactement.
Il a eu des réponses.
Mais il a
il y a beaucoup d'avis sur la caméra. Qui était Job? Est-ce qu'il a existé ou est-ce qu'il n'a pas existé? Mais c'est clair que le débat qu'il y a dans Job, c'est un débat qui va très très loin.
Bien sûr.
Par exemple, je vous donne une question, juste un verset de Job, très dur. Il dit comme ça, il dit, si tu as fauté, qu'est-ce que t'as changé chez Dieu? Et si tu as fait une mitzvah, qu'est-ce que tu lui as rajouté?
À moi et Dieu, non.
C'est
ça. Non, au contraire.
Non.
C'est-à-dire, il parle à Dieu et il lui dit, qu'est-ce que tu fais avec ma Avera? Je suis tellement petit devant toi, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as pas une pichetette, c'est rien.
Là, on veut expliquer le spirituel par le rationnel.
Non, c'est une image. Ça veut dire, il veut dire par là que, bon, c'est des vraies questions qu'il pose Job, c'est des vraies questions. C'est un livre compliqué, Job. C'est un livre qui bouleverse. Tu ne peux pas le lire comme ça. Il faut lire avec les commentaires.
C'est la même question,
la question que je pose, c'est la même question. Qu'est-ce qu'il en a à faire de nous?
Oui, c'est la même question.
Pourquoi il nous a créé?
Et comment tu peux expliquer ce qu'a dit le Zohar? Que lorsqu'une personne offre un corban, une omelette, comme a dit le Zohar, la personne offre un corban, une omelette, il a bouleversé les mondes en haut. Tout, il y a une onde de choc dans les cieux. Comment tu peux expliquer ça?
Ça fait partie de la création, ça encore. Ça encore,
si
tu
ne
pas le
sel,
le corban, ça fait partie de la
création. Attends, je rajoute un élément qu'il dit, parce que c'est important. Le Harizal, il dit comme ça, il dit que lorsqu'on offre un corban, je crois qu'il va le mettre après, je crois qu'il va dire ça après. Ouais, il dit pas ça,
pense à
ça. Dans un corban, on fait participer les quatre espèces de ce monde, les quatre choses. Il y a domem, tsomea, chaim et daber. Le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain. Dans un corban, tu as les quatre éléments. Médaber, je commençais par le donner. Médaber, l'homme, c'est l'homme qui offre le corban. D'accord? Si tu as chai, chai c'est l'animal. Tu offres un animal. Tu offres l'animal, tu offres le moineau, etc. Si tu as sommaire c'est le végétal. Le végétal, tu as aussi, tu as le végétal, donc tu as par exemple ici beaucoup de choses. Tu as l'huile, tu as la farine, le végétal. Après tu as de même, le minéral. D'accord? Le minéral c'est quoi? Le minéral c'est l'eau, le minéral c'est le sel. Et tous ces éléments, on mettait le Betamigdash. Maintenant, dit le Harizal, chaque fois qu'on apportait un corban, on essayait d'associer un maximum d'éléments. Dans l'omelette, il n'y en a que trois. Mais dans d'autres éléments, dans un corban, il y a quatre éléments. Dans un corban animal, il y a quatre éléments. C'est quatre éléments. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu offres le corban, un moineau. Quand tu as offert un moineau, tu as les quatre éléments. Parce que le moineau, en général, on l'offrait avec d'autres choses, avec du sel, d'accord? On l'offrait aussi avec, on rajoutait de la farine, en général, une mincha. On avait l'oiseau, il vient du monde de l'animal, d'accord? Et on a l'homme qui a offert tout ça. Il dit le Harizal, quand tu offres le corban, c'est les quatre dimensions de ce monde qui sont élevées. C'est-à-dire, en offrant le corban, si tu veux, le corban était comme l'ambassadeur de tous les minéraux du monde, tous les végétaux du monde, tous les animaux du monde et tous les humains. Et en offrant un corban, tu as élevé toute l'humanité, tous les minéraux, tous les végétaux, tous les varakadash. Bon, ça, on comprend pas, ça. Mais avec ce qu'on a expliqué, on comprend un petit peu mieux. On a expliqué que toi, tu fais un petit acte, cet acte a une onde de choc dans le monde entier. Plus que le monde, ça va jusqu'au Canada. On va terminer. Vekacha mamash ubeinyan sachar veonesh. Il en va exactement de même en ce qui concerne la récompense et la punition. On en comprend. On comprend pourquoi, si une mitzvah produit une onde de choc extraordinaire et qu'une avéra aussi une onde de choc de destruction extraordinaire, c'est pareil pour la punition et la récompense. Une récompense ici-bas t'empêche de recevoir une grande récompense en haut, et une petite punition en bas t'évite de recevoir une grosse punition en haut. Donc avec ça, on peut comprendre pourquoi, quelque part, on doit s'estimer heureux quand Hachem nous envoie une épreuve. On ne veut pas arriver aux épreuves. Mais les petites épreuves de la vie de tous les jours, dites-vous qu'une petite épreuve de la vie de tous les jours, elle m'a évité de payer très très gros en haut. Avec le système qu'on a expliqué. Comme les Chachamim ont dit, on l'a dit tout à l'heure, le salaire du mitzvah est une mitzvah, on l'a expliqué, quand on a Pirkei Avot la semaine dernière. Alors on termine avec ça, le Igaret HaTshuva, Bezrat Hashem. Des da'at le navon nakel, ou maskil al davar im tzatov. C'est un texte dans les proverbes qui dit que le savoir est facilement abordable à l'homme intelligent, et celui qui réfléchit mûrement à la chose trouvera le bien. Ça, c'est une expression du roi Salomon pour dire que des fois, on te donne une petite idée, et après, à toi de faire mûrir l'idée dans ta tête pour aller plus loin. C'est-à-dire que l'Admor HaZaken te dit ici, l'idée que je viens de t'expliquer, tu peux changer ta vie avec ça. Moi, j'ai expliqué une petite idée. Je t'ai parlé des omelettes, je t'ai parlé des trucs, je t'ai parlé du soleil, je t'ai parlé, etc. Mais l'idée qu'on a expliquée, ce ratio, cette relation qu'il y a entre le ciel et la terre, entre Akadosh Baruch Hu et les êtres humains, entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas, cette idée-là, si tu la développes, tu peux changer ta vie. Tu peux complètement transformer, bouleverser ta vie. Et c'est comme ça que se termine l'Igaret HaTshuva. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu du cours d'aujourd'hui? Ce qu'on a retenu du cours d'aujourd'hui, c'est que on doit investir dans ce monde-ci. On doit profiter des occasions qu'on a de faire des mitzvot. Chaque petite mitzvot que tu gagnes, imaginez une personne qui a fait aujourd'hui 100 mitzvot. Et il a une occasion de faire une 101e mitzvot. Il dit, ça va, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait 100 mitzvot.
613.
Ça va changer quoi? Ça rajoute une, ça rajoute deux,
jour,
ça rajoute
613.
Trois. Chaque mitzvah que tu rajoutes, chaque petite mitzvah que tu rajoutes, rapporte très très gros. C'est un investissement qui rapporte gros. Maintenant, tu le vois pas, mais ça rapporte gros. L'onde de choc. À nous de méditer à tout ça. Voilà. Donc avec ça, on a conclu Bezrat Hashem, Igeret HaTshuva. Et c'est un moment, comme je disais, d'émotion pour moi, puisque ce soir, c'est les Shloshim de mon grand-père à la Vache à l'homme. Donc on va dédier ce cours et notre étude, les Lunishmat, Rav Yosef Ben David. Amen. Voilà.
Kozak. Belle conclusion. Le soleil brille.
Ça tombe bien pour ton grand-père.
Méditer sur Job. Méditation sur Job.
Après, ça te plaît, Job, hein?
Ah oui, oui, ça m'a toujours vu. J'en ai parlé l'année dernière. J'ai dit, c'est Job, il faut parler de Job.
Bon, alors, semaine prochaine, on fera un cours hors série sur Shavuot. Et après Shavuot, si Dieu veut, on commencera la très belle étude. On commencera Shaar Echoud Ve'Emouna. Très profond, mais très passionnant, très intéressant. C'est le début de ce livre. Il va expliquer beaucoup de sujets de Emouna.
C'est
très
un autre livre de...
Non, le même livre. Non, oui, c'est une autre section.
On avait commencé
une autre section.
À la moitié, on avait commencé.
On avait commencé à Guéret Hachouva. Quand on a terminé Guéret Hachouva.
On n'avait pas fait le début du livre.
Et on reprendra si Dieu veut. Voilà, donc ce matin aussi, on a terminé. Ouais. On a terminé aussi le traité Baba Batra. Soit on termine Guéret Hachouva et Tania. Bon, on avance. Voilà. Mazal Tov.